Sajot et ses castors par Gray Hall. Cinquième cassette, première face, page 159. Ce même jour, on eût pu voir trois pirogues se diriger à toute vitesse vers le portage incendié où Chapian, Sajot et Chilaoui avaient eu leur terrible aventure. Les pirogues allaient à une allure vertigineuse. Elles contenaient des Indiens nus jusqu'à la ceinture, dont les longs cheveux étaient relevés et noués au sommet de la tête pour ne pas gêner leurs mouvements. Muets, la figure contractée, les épaules ruisselantes de sueur, ces hommes ramaient de toute leur force. Les corps bruns s'inclinaient et se balançaient en cadence, et les pagaies étincelaient au soleil, tandis que les pirogues filaient comme un trait vers le portage. La première embarcation avait à peine touché la rive qu'un homme sauta à terre. C'était Longue Plume. La brigade était revenue. Longue Plume avait trouvé sa cabane vide. Se jetant à genoux sur la berge, il gratta la litière de cendres et de charbon, maintenant refroidie, et découvrit l'empreinte en forme de V faite par l'avant d'une pirogue. Il distingua aussi la marque d'un petit mocassin. Sautant sur ses pieds, il cria « Ils sont passés ici! Vite, prenez les haches, déblayez le portage! Je vais fouiller la piste pour... » Ici, il fut interrompu par un homme à la chevelure blanche et au visage ridé plein de sagesse. « Arrête, mon fils, » dit ce dernier. « Mes yeux de vieillard ont vu beaucoup de choses. Reste ici à te reposer. Je vais examiner la piste le premier. » En réponse aux paroles de son chef, Gichimiguon inclina la tête et attendit. Le chemin était encombré d'arbres tordus et noircis qui s'enchevêtraient en tous sens. Les hommes se mirent à travailler de la hache avec acharnement pour ouvrir un passage aux pirogues, tandis que Longue Plume, incapable de rester inactif, préparait le repas de ses compagnons. Le travail promettait d'être long. Le vieux chef avançait le long du portage en cherchant avec soin parmi les débris de l'incendie une empreinte ou toute autre trace du passage des enfants. Il déplaçait tous les troncs d'arbres renversés qu'il pouvait mouvoir pour voir s'ils recouvraient une trace ou une indication quelconque. Car l'incendie se déplace parfois avec une telle rapidité qu'il laisse à moitié faite sa sinistre besogne. Sous un de ces troncs abattus, il découvrit, écrasé, mais seulement en partie brûlé, le couvercle du panier de Chilaoui. Il trouva aussi, à l'autre bout du portage, une entaille profonde dans le sol mou de la rive, comme si l'extrémité d'une embarcation s'y était enfoncée violemment. Pour quelle raison, se demanda-t-il, puisque la pirogue allait sûrement dans l'autre sens? Mais alors, remarquant l'énorme tronc à demi consumé, couché dans l'eau à une distance n'excédant pas deux longueurs de pirogue, il comprit ce qui était arrivé. Car c'était un vieillard plein de sagesse, habitué à déchiffrer la grande solitude comme nous lisons un livre ouvert. Pour cette raison, les siens l'avaient dénommé Neganik Abo, l'homme qui marche en avant. Il revint donc sur ses pas et dit au malheureux père qu'il ne devait plus désespérer. Debout au milieu de ses hommes, avec ses cheveux blancs flottants et son visage brun plein d'énergie, il dit ce qu'il avait vu et affirma que les enfants avaient échappé à l'ennemi rouge. Ah ! Comme Gichimiguon qui tournait et retournait entre ses mains, le couvercle du panier noirci par le feu souhaitait qu'il dît vrai. Ce soir-là, quand le campement eut été dressé et que l'obscurité fut tombée, Longue Plume gravit une grande colline rocheuse et dénudée qui dominait de haut le paysage désolé. Et là, entouré de tous côtés par la forêt ravagée, il éleva les mains vers le ciel et le visage creusé par le chagrin pria tout haut le grand esprit des terres sauvages. Oh ouais, Manitou, grand esprit qui veille sur tous les habitants de la forêt, Garde mes petits à l'abri de tout mal. Protège mes enfants contre tout danger. Depuis qu'ils sont partis, mes jours gisent à mes pieds comme les cendres mortes de cette solitude dévastée. Pour moi, le soleil ne brille plus et les oiseaux chanteurs sont devenus muets. Je n'entends plus que la voix rieuse de Sajo. Je ne vois plus que la figure de mon chapian au regard vaillant faisant face à la forêt en flammes. Manitou, j'ai mal agi. Je suis coupable, moi qui ai mis le chagrin dans le cœur de Sajo, moi qui ai jeté une ombre sur le visage souriant de ma Sajo. Oh, Gitchi Manitou, ramène mes petits sains et saufs au village de l'eau qui parle. Grand esprit de notre peuple, ramène mes enfants sains et saufs. Et tandis que sa voix résonnait au-dessus du paysage incendié, désert et silencieux, le vieux chef aux yeux pleins de sagesse, assis derrière lui au clair de lune, tapait doucement sur un tambour colorié. Or, cette nuit même, sans que leur père inquiet s'en doutât, Sajo et Chapian, s'éloignant de plus en plus du pays de l'eau qui parle, allait à travers les ténèbres vers la cité lointaine aussi vite que les roues rapides d'un train pouvaient les y conduire. Chapitre 13. Le petit prisonnier. Pendant ce temps, qu'était-il advenu de Chicani? Il nous faut retourner au jour où le trafiquant était sorti avec lui de la maison de Gitchi Miguan, l'enlevant, semblait-il, pour toujours à ses amis. Pendant les 4 ou 5 jours que dura le retour en pirogue du trafiquant et de ses rameurs ojibwés à Rabbit Portage, Chicani ne fut pas trop malheureux, car un des Indiens s'occupait de lui et lui donnait largement l'eau et la nourriture qui lui étaient nécessaires. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Chilaoui n'était plus avec lui et se demandait où avaient disparu Sajo et Chapian. Tous trois commençaient à lui manquer et il poussait de longs cris pour faire venir Sajo qui accourait toujours à son appel. Mais personne ne venait, sauf l'Indien au visage inconnu qui se contentait de lui donner à manger et de lui changer son eau. Cet homme transporta Chicani par le bateau jusqu'à la station du chemin de fer, où il le laissa. Une somme d'argent lui fut remise en échange, après quoi il se désintéressa du sort du petit castor. Cet arrêt dans le voyage fit croire à Chicani qu'il était de retour chez lui, et il réclama bruyamment sa mise en liberté, persuadé que ses camarades de jeu allaient accourir pour le retirer de cette caisse étouffante où l'on était si mal à l'aise. Mais personne ne vint. Chicani se mit à ronger sa caisse. Et voilà que des voix rudes qu'il ne connaissait pas l'apostrophèrent avec colère. Il essaya ensuite de grimper aux parois de sa prison. Mais elles étaient trop hautes. Et les mêmes voix inconnues crièrent de nouveau, tandis qu'on frappait sur sa caisse pour le faire tenir tranquille. Si bien qu'épouvanté, il n'osa plus bouger et se mit à pleurer de tristesse et d'abandon. Où donc était Sajo, qui l'avait toujours consolé dans ses petits chagrins et dans les bras de laquelle il se sentait si heureux? Où était Chilaoui, dont jusque-là il n'avait jamais été séparé plus d'une heure? Un peu plus tard, il fut chargé dans un train qui roula durant des heures dans un bruit de tonnerre. Lorsqu'il démarra, Chicani, qui avait oublié de fermer ses oreilles, fut affolé par tout ce fracas. Il faut que tu saches que les castors peuvent ouvrir et fermer leurs oreilles à la façon d'une bourse pour empêcher l'eau d'y pénétrer ou pour ne pas entendre les bruits déplaisants. Dans son effroi, Chicani essaya de plonger dans sa petite cuvette d'eau et la renversa, de sorte qu'en plus de ses autres misères, il commença bientôt à souffrir de la soif. On l'avait emporté si précipitamment que Sajo n'avait pas eu le temps de lui mettre dans sa caisse un bannock qui lui aurait duré plusieurs jours. Et maintenant, personne ne songeait à lui donner à manger. Aussi, affamé, esselé, mal en point et fou de terreur, il s'efforça désespérément de s'ouvrir une issue hors de la caisse. Il y serait parvenu rapidement s'il ne s'était cassé sur un clou une de ses quatre incisives. Ronger devint alors si douloureux qu'il ne put pas continuer. Sa litière, ou le peu qu'il en avait, s'était salie, et les secousses du train le lançaient contre les parois de sa caisse, si bien qu'il fut bientôt tout endolori. Il tâchait de se maintenir au centre, loin des murs de sa prison, mais n'y réussissait pas. Un employé du train lui glissa par bonté d'âme quelques croûtes de pain de son propre repas. Mais comme le petit castor s'attachait frénétiquement à ses mains, il crut qu'il était d'humeur méchante. Pour tous ces gens qui ne savaient pas qu'il demandait simplement de l'aide, Chicani n'était qu'un animal sauvage. À partir de ce moment, tout le monde eut peur de lui. Une si petite créature. Et personne n'essaya plus de lui donner de la nourriture ou de la litière fraîche. Pour la même raison, sa petite cuvette demeura vide. Alors il poussa des cris de détresse, il appela désespérément ses jeunes compagnons qui maintenant ne pourraient plus jamais l'entendre, les suppliant avec des gémissements de petit enfant de venir le prendre et de faire cesser l'horrible épreuve qu'il subissait. Mais personne n'y fit attention, si toutefois on entendit ces faibles cris qui se perdaient dans le bruit du train. Enfin, après beaucoup d'arrêts et de démarrages, dont chacun le secouait et le projetait d'un côté à l'autre de sa prison, et un dernier trajet particulièrement chaotique dans un camion de livraison, un calme soudain se produisit. Avec un horrible grincement de clous arrachés, le couvercle de sa boîte fut retiré et il fut soulevé hors de sa prison par une main qui le tenait solidement par la queue, une main grande et forte, et cependant très douce. Pendant qu'il pendait ainsi la tête en bas, une autre main se posa sous sa poitrine et le redressa dans le bon sens, tandis qu'un doigt caressait doucement une de ses petites pattes brûlantes et meurtries. En même temps, une voix mâle prononçait quelques mots de réconfort. Il se sentit subitement plus à l'aise. L'homme qui venait de le prendre était un gardien du parc où Chicani allait demeurer et il connaissait bien son affaire. Il examina le petit prisonnier et le voyant en si triste état, sale, crotté et couvert de poussière, lui si fier et si soigneux de sa belle robe, il dit avec colère au livreur qui, le pauvre homme, n'en pouvait mais, « Comment ? Pas d'eau, rien à manger, les pattes sèches, la queue sèche, le museau sec, les dents ébréchées, si ce n'est pas une honte, en voilà une façon de faire voyager un castor. Mais attends, vieux frère, on t'aura bientôt retapé. » Le gardien, prévenu par lettre, attendait l'arrivée du petit voyageur et il avait tout préparé pour le recevoir. Chicani se trouva bientôt installé dans un enclos construit en quelque chose qui ressemblait à de la pierre, mais d'aspect beaucoup plus rébarbatif, et qu'entourait une rangée de barreaux de fer. C'est dans cette prison de fer et de béton que Chicani, qui n'avait commis aucun crime, était destiné à passer le reste de ses jours. Le doux, l'aimable Chicani était considéré maintenant comme un animal sauvage et peut-être même comme un animal dangereux. L'enclos n'était pas bien vaste. Ce n'était qu'une cage pour qui avait vécu en liberté auprès du grand lac, comme l'avait fait Chicani pendant la plus grande partie de sa courte existence. Mais peu lui importait pour l'instant. Il sentait la présence de l'eau. Alors, juste en face de lui, il vit une pièce d'eau claire et profonde, pas bien grande, c'est vrai, mais enfin une pièce d'eau. Il s'y jeta aussitôt et but avidement, se laissant flotter à la surface, tandis que sa queue et ses pattes, desséchées et fendillées, s'imprégnaient de cette humidité revivifiante et que les croûtes de saleté se délayaient et se détachaient de son pelage. Il nageait lentement, de long en large. C'était un vrai paradis pour un castor, après ses 3 jours de privation, de malpropreté et d'abandon complet. Le petit corps brûlant se rafraîchissait. Les battements douloureux des bosses et des meurtrissures s'apaisaient à mesure que l'eau froide produisait sur lui son action bienfaisante. Au bout d'un moment, il s'avisa que cette étroite pièce d'eau ne devait être qu'un simple trou de plongée. Quelque part dans le fond, il allait découvrir un passage qui le conduirait sans aucun doute dans le lac, et là, sur la rive, il retrouverait ses compagnons de jeu. Chilaoui accourrait à sa rencontre et se roulerait de joie sur son dos laineux. Puis Sajo arriverait, le prendrait dans ses bras, le câlinerait, lui chuchoterait de douces choses à l'oreille, le chatouillerait à ce drôle de petit endroit sous le menton, et les heures mauvaises seraient oubliées. Prenant un grand élan, il plongea tout droit pour se cogner la tête contre le fond de la pièce d'eau, et cela si durement qu'il en fut à moitié étourdi. Il renouvela la même tentative avec le même résultat. Il griffa et mordit le béton, voulant se creuser un passage vers le tunnel qui devait être là, tout près. Mais il ne réussit qu'à se fendre les ongles et à perdre quelques fragments des dents qui lui restaient. Il se traîna alors hors de la pièce d'eau pour gagner la clôture et tenta de se glisser entre les barres de fer. Mais elles étaient trop rapprochées. Il essaya de les ronger, mais ses dents ébréchées ne réussirent même pas à les érafler. Il fit et refit en courant le tour de son enclos, s'arrêtant ici et là pour creuser le sol. Toujours en vain. Il passa un long moment à courir de la pièce d'eau à la clôture et de la clôture à la pièce d'eau, s'acharnant tour à tour à ronger et à creuser. À la fin, il se rendit compte qu'il n'y avait pas d'issue, pas de trou de plongée, aucun moyen de s'échapper. Épuisé, découragé, désespéré, il s'étendit à plat sur le sol chaud et dur de l'enclos et se mit à gémir. C'est ainsi qu'il faisait lorsque Sajo le berçait pour l'endormir et lui faire oublier ses petits chagrins. Seulement avec Sajo, il pleurait de joie, tandis que maintenant, il pleurait de détresse. Et comme il aurait voulu aussi fourrer ses petites pattes, ne fût-ce qu'un instant, dans le pelage doux et soyeux de Chilaoui. À présent, plus de Sajo, plus de Chilaoui, il n'y avait plus que le pauvre tout petit, en prison, tout seul. Le gardien demeura un bon moment près de l'enclos à observer la scène avec des hochements de tête en disant « Pauvre petit bonhomme, tu me fais de la peine !» C'était son métier d'acclimater les bêtes sauvages qu'il recevait de temps à autre, mais comme il aimait les animaux, la captivité dans laquelle il devait les maintenir lui faisait parfois horreur. Pour lui, ce n'étaient pas des bêtes sauvages, mais de malheureuses petites créatures privées de la parole et qui avaient grand besoin d'une bienveillance qu'il ne pouvait même pas implorer. Il avait de la compassion pour le petit castor qui luttait désespérément pour recouvrer sa liberté. Ce n'était pas le premier castor qui était confié à ses soins et il connaissait le naturel doux et aimable de ces animaux. Pénétrant dans l'enclos, il saisit Chicani avec dextérité et, comme la première fois, celui-ci n'eut pas l'air effrayé, ne se débattit point, mais se sentit tout à fait à l'aise entre ses mains qui étaient tellement plus amicales que le dur béton. Le gardien emporta Chicani dans sa maison qui se trouvait tout près, à l'intérieur même du parc. Il avait trois jeunes enfants qui, lorsqu'ils le virent entrer avec un petit castor, l'entourèrent en poussant des cris de joie et en battant des mains, si bien que Chicani essaya de se cacher dans la veste de l'homme qui déjà lui inspirait confiance. Le père calma ses enfants et posa par terre la petite bête qui se trouvait un peu moins dépaysée dans une maison que dans une cage. Tous observaient Chicani pour voir ce qu'il allait faire. Pauvre petit malheureux, dit la femme du gardien, voyez comme il est maigre. Joey, va chercher une pomme. Les autres castors que nous avons eus aimaient les pommes à la folie. » Le petit Joey alla vite en chercher une qu'il posa sur le sol devant Chicani. Celui-ci n'avait jamais vu de pomme. Il la flaira. Oh, l'odeur exquise! Il y planta comme il put ses pauvres petites dents ébréchées. Et alors, quelle saveur! La plus délicieuse du monde! Il saisit à deux mains ce fruit merveilleux et en fit disparaître presque la moitié. Le gardien était enchanté car il avait vu plusieurs de ses prisonniers refuser toute nourriture et mourir. À présent, il savait que celui-là reprendrait le dessus, ce dont il était rien moins que sûr un instant auparavant. Les enfants, ravis, riaient de le voir manger, assis comme un petit homme, et la femme du gardien s'exclama : « Là, qu'est-ce que je vous disais ? En moins de rien, il aura repris son aplomb. » Alors le gardien apporta les branchettes de peuplier aux feuilles fraîches et juteuses qu'il avait placées dans la cage et auxquelles Chicani n'avait pas touché. Mais à présent, l'animal se mit à les manger et les enfants s'amusèrent de le voir prendre les feuilles en petits bouquets avec ses mains pour les mettre dans sa bouche. Comme il se sentait beaucoup mieux, il faisait entendre en mangeant de petits cris de plaisir, ce dont les enfants s'émerveillaient plus encore, et l'un d'eux, une blondinette rose et joufflue, s'écria « Écoutez-le ! Écoutez-le parler, on croirait un petit bébé !»« Oh papa, permets-nous de le garder ici dans la cuisine !» La maman ajouta « Oui Alec, laisse-nous le garder ici, comme porte-bonheur, il n'y a plus personne dans le parc, c'est presque comme si on mettait un enfant en prison !» « Tu as peut-être raison, » répondit Alec. « Nous allons lui trouver un coin ici pour la nuit. » Ils firent donc place à notre Chicani dans la cuisine et Alec, le gardien, fixa sur le plancher une grande marmite basse remplie d'eau et mit à côté une grande boîte garnie d'une bonne couche de paille fraîche pour lui servir de lit. C'est là que le petit castor passa la nuit, pas très joyeusement peut-être, mais très confortablement. Le lendemain matin, Alec le reporta dans sa cage pour que le public qui se promenait dans le parc pût le voir. Mais quand le soir revint et que les jardins furent déserts, il le ramena chez lui. C'est ce qu'il continua de faire tous les jours, et Chicani passa dans la maison du gardien toutes les heures où il ne travaillait pas. Il trouvait dans la cuisine son lit et sa grande casserole d'eau. C'est là qu'il mangeait ses feuilles et ses branchettes. Et chaque soir, une jolie pomme juteuse le consolait d'une partie de ses misères, sinon de toutes, car aussi longtemps qu'il vivrait, il souffrait de la solitude. Les castors sont probablement les animaux de l'Amérique du Nord qui ont la mémoire la plus fidèle. Cela donnait lieu chaque matin à un beau nettoyage. Bâtons écorcés, morceaux de branches, feuilles fanées gisaient sur le plancher, tout aspergé d'eau. Mais les enfants remettaient volontiers tout en ordre quand Chicani était reparti pour accomplir sa tâche quotidienne qui consistait à se laisser regarder à travers les barreaux de sa cage. Personne ne lui en voulait du petit surcroît de besogne qu'il occasionnait. Il s'entendait très bien avec toute la famille et tint bientôt sa petite place dans la maisonnée. Il eut vite fait connaissance avec tous ceux qui la composaient. Il s'ébattait gauchement avec les enfants, à qui il faisait un peu l'effet d'un joyeux joujou animé, l'effet d'un de ces chiens de peluche aux airs fripons que l'on trouve sur les arbres de Noël. Mais pour Chicani, ce ne serait jamais la même chose qu'à Opipisoway. Aussi n'avait-il pas toujours envie de jouer. Et restait-il souvent tranquille dans sa caisse, son petit cœur gonflé du désir inassouvi de revoir ses anciens amis. Ses dents n'avaient pas tardé à repousser et il passait beaucoup de temps à les aiguiser en les frottant et en les tapant rapidement les unes contre les autres. Sa fourrure, qu'il avait fort négligée pendant un temps, était maintenant nettoyée et peignée chaque jour. Lui qui à son arrivée semblait n'avoir que la peau et les os, s'arrondit de nouveau et reprit bientôt l'aspect du Chicani d'autrefois. Bien qu'il lui manquât toujours quelque chose, son sort chez le gardien était assez enviable, tandis que dans sa cage, il était réellement malheureux. Le gardien le savait, et cela lui faisait de la peine, lorsqu'il le déposait le matin dans son enclos, de voir en s'en allant la pauvre petite bête le suivre d'un regard triste et s'asseoir toute seule sur le sol en béton, entourée par ses barreaux de fer qui auraient mieux convenu à un ours gris. Il songeait qu'un castor peut vivre plus de 20 ans, dans cette prison de fer et de béton. Dans 20 ans, ses enfants auraient grandi et seraient partis ailleurs. Lui-même ne serait peut-être plus là. La ville se serait agrandie, les gens continueraient à aller et venir, heureux, libres. Tandis que ce pauvre petit animal, qui n'avait fait de mal à personne, passerait ses 20 longues années seul, à regarder derrière ses tristes barreaux, comme s'il était un grand criminel, dans l'attente d'une liberté qui ne lui serait jamais rendue, dans l'attente de la mort qui, elle, finirait par venir. Et tout cela, pensait le gardien, sans raison sérieuse, si ce n'était de permettre à des gens qui s'en souciaient fort peu de contempler une minute ou deux le mélancolique petit prisonnier. Après quoi, il s'en allait et n'y pensait plus. C'est injuste, pensait le brave homme, et il était bien résolu à traiter son petit pensionnaire le mieux possible et à le laisser jouir de la liberté dans sa maison aussi longtemps qu'il le pourrait. Mais il ne faut pas croire que Chicani eut perdu toutes ses illusions. Il y en avait une qu'il conserva très longtemps. Il comptait que Chilaoui, par je ne sais quel moyen mystérieux, finirait par le rejoindre. Jadis, quel que fût l'endroit où il se trouvait, il ne restait jamais bien longtemps sans voir apparaître Chilaoui qui le cherchait. Lui-même, à présent, se mettait perpétuellement en quête de Chilaoui, regardant dans la hutte en bois de son enclos, inspectant l'une après l'autre toutes les pièces du rez-de-chaussée de la petite maison du gardien, s'élançant parfois au dehors pour examiner à fond le bûcher. Il était sûr qu'un jour, il le découvrirait. Cependant, après un mois entier de déceptions quotidiennes, il perdit peu à peu courage et finit par abandonner des recherches toujours infructueuses. Or, à une distance de plusieurs centaines de kilomètres, Chilaoui, en vain, lui aussi, faisait exactement la même chose. Fin de la première piste de la 5e cassette, Sajo et ses castors, par Gray Hall, page 178. Attention, au verso de cette cassette, la deuxième phase de cette 5e cassette est de mauvaise qualité. Nous reprenons donc la page 178 sur la 6e cassette, première face, et il n'y a rien sur la 2e face de la 5e cassette. Tu as bien entendu, reprends à la 6e cassette, première face maintenant. Au revoir, et excuse-moi pour ce pépin.